Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Dans le parcours, à travers les usages de hieros dans la poésie archaïque, j'ai laissé jusqu'ici une partie importante, quantitativement parlant, des usages de l'épithète. Il s'agit des cas où hieros détermine des toponymes, que ce soit des cités ou même quelques îles. Comment comprendre l'expression formulaire qui qualifie une cité de hiera? Nombre de poleis, nommément évoqués dans l'épopée, reçoivent une telle détermination, et tout particulièrement la cité de Troie, qui est évidemment récurrente dans l'Iliade et qui apparaît dès le deuxième vers de l'Odyssée. Vous voyez à l'écran également des îles ainsi qualifiées comme le B, le premier passage au chant 2, donc des Locriens qui résident au-delà de le B sacré. Donc là, j'ai conservé les traductions, donc le B sacré, chant 4 par exemple, vers 415-416. Si les Achéens détruisent les Troyens et prennent la Sainte Ilion, chant 5, vers 445-446, Apollon le dépose dans la Sainte Pergame où est bâti son temple. Et puis donc dans l'Odyssée, Troyes, Hieron, Ptoliétron, dès le deuxième vers du chant 1. On a aussi Athènes qui est ainsi qualifiée au chant 11, et Pylos au chant 21. Et je vous renvoie sur cette question qui a été abondamment traitée, même si je n'adopte pas tous les éléments d'interprétation. L'important ouvrage de Stephen Scully, Homer and the Sacred City, qui a été publié à Ithaca en 1990. Alors, que signifie cette expression ? Une fois qu'on souhaite dépasser l'explication passe-partout d'une tradition formulaire en quelque sorte démonétisée. En effet, si formule il y a, dans tradition formulaire il y a formule, pour figer qu'elle soit, elle doit receler encore quelque chose de ce qui l'a fait naître. Dès lors, si une cité, que ce soit Troie, Pergame, Athènes, Pylos, comme on le voit à l'écran, ou d'autres moins célèbres que je n'ai pas nécessairement reprises ici, donc si une cité, disais-je, est susceptible d'être qualifiée de hiera polis, cet usage laisse entendre que toute cité peut être ainsi qualifiée, au moins potentiellement. Le formulaire ne fait émerger aucune exclusivité en cette matière, et c'est la notion même de polis, davantage que telle ou telle polis particulière, qui est à même d'attirer l'épithète hieros. Donc il n'y a pas des cités qui seraient plus sacrées que d'autres. C'est la cité comme telle qui est susceptible d'être ainsi qualifiée. Alors, les sens de hieros que nous avons envisagés jusqu'ici peuvent-ils nous aider à comprendre l'expression ? Reprenons-les brièvement. La possession divine, au sens des anathémata envisagés il y a plusieurs semaines, ne s'applique pas strictement à hiera polis. Une polis grecque n'est pas dédiée, consacrée à un dieu spécifique au sens où elle en serait la propriété, je dirais presque juridique. Ce que nous, modernes, appelons une divinité poliade, est une projection à l'ensemble du monde grec, du cas particulier d'Athènes et de son Athéna, sur lequel je reviendrai la semaine prochaine. En fait, un grand malheur menacerait la cité qui n'honorerait qu'une seule divinité. Toute la conception des timaï divines, à savoir les honneurs dus aux dieux, implique d'emblée une pluralité d'interlocuteurs. Dire qu'Athènes est la cité d'Athéna, comme son nom l'exprime, et élargir ce type de rapport de quasi-exclusivité à toutes les cités grecques n'est même pas une explication faible de la notion de hiera polis. C'est une explication qui a toute chance d'être erronée par la généralisation qu'elle induit. En revanche, si je reprends une fois de plus l'expression de Jean Rudart, estimant que quelque chose de hieros se trouve, je le cite à nouveau, sur une voie qui conduit du Dieu à l'homme et de l'homme au Dieu, l'horizon d'intelligibilité de l'expression s'élargit en faisant surgir la cité comme lieu privilégié d'interaction entre une communauté humaine et les dieux. Un passage de l'Iliade, puisque je vous ai dit que nous restons aujourd'hui dans le corpus poétique, un passage de l'Iliade semble valider une telle hypothèse. Nous sommes au chant 4, vers 44-49, et Zeus parle de Troie aux autres dieux. Et il leur dit ceci, je cite la traduction avec vous, « Entre toutes les villes qui sont sous le soleil et le ciel étoilé, habitées des mortels sur terre, il n'en était point de plus prisé de moi que la sainte Ilion. » Donc j'ai adopté la traduction de Paul Mazon en laissant « sainte Ilion » pour rendre « Ilios irae », que la sainte Ilion, avec Priam et le peuple de Priam à la bonne pique, jamais mon autel n'y manqua d'un repas où tous ont leur part des libations, ni du fumet de graisse, qui sont notre apanage à nous. » Fin de citation. Donc on voit bien ici que cette qualité de hieros, hierè, hiera, attribuée à Ilion, à Troie, pourrait être lié, en tout cas dans le discours que Zeus adresse aux autres Olympiens, à cette qualité de relation que le dieu trouve dans cette interaction avec les Troyens. Alors certes, toutes les occurrences dans la poésie de Hieros qualifiant une polis, une ville, ne sont pas ainsi contextualisées, mais l'institutionnalisation d'une relation collective au dieu, caractéristique d'une cité, permet de penser que cette qualité, donc de hieros appliquée à une polis, plonge ses racines dans le caractère profondément topique de la relation entre homme et dieu dont on a vu naguère l'importance. Or, le lieu par excellence de la vie des humains dans l'épopée, pas seulement dans l'épopée d'ailleurs, est une polis, quelle que soit la réalité institutionnelle précise que l'on place derrière le terme grec. À ce moment-là, en tout cas, pour ce moment-là. C'est là, en fait, que les dieux sont assurés d'obtenir leur timé, l'hommage qui leur est dû. Pour tester davantage encore l'hypothèse et l'affiner, j'aimerais convoquer quelques exemples que l'on peut situer dans un registre proche de la sacralité des cités. Il s'agit des passages qui attribuent la qualité de hieros au rempart d'une ville dont je ne vous ai pas encore parlé non plus. Ainsi, au chant 4 de l'Iliade, Ulysse parle à Diomède et il évoque ce combat antique des sept contre Thèbes, qui faisait aussi partie de cette tradition épique grecque, et Ulysse lui dit « il faisait campagne contre les murs sacrés de Thèbes ». Et vous voyez « hiera teikeia Thébès », donc à nouveau « hieros ». Autre exemple, au chant 16 de l'Iliade, Achille parle à Patrocle avant que ce dernier ne se lance sur le champ de bataille armé de la panoplie d'Achille lui-même. Et Achille lui dit, en sa présence en tout cas, il invoque les dieux. « Ah, Zeus père, s'écrit-il, Athéna, Apollon, que pas un des Troyens n'échappe à la mort, pas un Argien non plus. » Donc vous voyez, c'est la rage, le ménisse d'Achille qui se manifeste, « que pas un des Troyens n'échappe à la mort, pas un Argien non plus. » Et que seuls tous deux, c'est-à-dire lui et Patrocle, nous émergions de la ruine afin d'être seuls aussi à délier les bandeaux sacrés au front de Troie. Et vous voyez l'expression hiera credemna liomen. Troyes, hiera credemna liomen. Les murailles de la cité en sont la marque la plus visible de cette cité, en contraste avec ce qui est extérieur à elle. Certaines traditions locales associent d'ailleurs la construction des remparts d'une cité à l'action des dieux eux-mêmes, ce qui est une autre manière de dessiner cette relation. C'est le cas précisément des remparts de Troie, élevés par Apollon et par Poséidon. C'est aussi le cas de ceux de Thèbes, en Béotie, précisément attribués à l'intervention musicale d'Amphion, un des nombreux fils de Zeus et d'une mortelle. L'image qui émane de ces expressions de la sacralité d'un lieu, donc hiérapolis, ou de la délimitation concrète de ce lieu, n'en fait pas à proprement parler la possession d'un dieu au sens que l'on a vu apparaître avec la dédicace d'objets, je vous l'ai dit il y a un instant. Toutefois, on voit se profiler l'idée d'un espace protégé par les dieux quand s'y traduit rituellement l'interaction continue avec eux de la part de la communauté tout entière. C'est ce qu'affirme Zeus en parlant d'Ilion dans le passage que nous avons vu précédemment avec Priam et le peuple de Priam. On voit bien que la hiérapolis de Troie, c'est ça, c'est Priam et le peuple de Priam. C'est ainsi que je comprends également la qualité de hiéra attribuée à des îles comme l'Eubée, mais il y en a d'autres, terre des hommes qui cultivent leur relation aux dieux, par opposition cette fois, puisque l'île est une configuration topique bien précise, par opposition à l'espace de la mer, où l'interaction ne relève pas d'une communauté comme telle. La toponymie est ici essentielle. Les noms des cités ou des îles attestent l'appropriation d'un territoire et ce que je pourrais appeler son humanisation. Et là encore, l'Odyssée est une très bonne pierre de touche pour ce point de vue, pour développer cette intuition. En effet, un passage de l'Odyssée exprime très clairement ce fait par l'intermédiaire du dieu Hermès, qui, au chant 5, arrive chez Calypso, Calypso qui retient Ulysse depuis déjà pas mal de temps. Et Zeus a envoyé Hermès pour persuader la nymphe de laisser partir Ulysse. Et donc, Hermès explique à Calypso que c'est contraint par Zeus qu'il est venu la trouver aux marges du monde pour tenter de la convaincre. Et il enchaîne en disant, je cite le passage du chant 5 au versant 102, « Qui mettrait son plaisir à courir cette immensité de l'onde amère ?» Et dans ton voisinage, il n'est pas une cité de mortels qui accomplisse pour les dieux des sacrifices et des hécatombes de choix. Selon la traduction de Victor Bérard, que j'ai un peu modifiée. Et donc, on voit très bien qu'ici, ce qui attire Hermès, c'est la Brotone Polis, la cité des mortels, parce que c'est là, et je reviendrai sur l'expression évidemment, hierate rezousin, Kai et Katambas, puisqu'on retrouve ici aussi avec Hiera la mention d'un un terme du champ sémantique de Hieros. Mais ici, tenons-nous-en à la Brotone Polis, donc cité humaine qui est ce qui attire les dieux, en contraste avec cette espèce de confins du monde où il n'y a rien, où se trouve Calypso, à quoi il associe aussi l'onde amère, c'est-à-dire cette mer dont les îles forment des isolats humains. Alors, j'en reviens à la question des murailles et de la protection de la cité, avec deux passages de Hieros, où on trouve Hieros dans l'Iliade, je poursuis mon enquête. Et ces deux passages plongent généralement les interprètes dans un abîme de perplexité ou dans une spirale de créativité. Souvent, l'un induit l'autre. C'est un peu comme avec le grand poisson de tout à l'heure. Alors, prenons ces passages l'un après l'autre. Le premier est situé au chant 10 de l'Iliade, au vers 54-56. C'est un discours d'Agamemnon à Ménélas pour mobiliser tout le monde face à la menace troyenne, donc tout le monde dans le camp achéen, bien sûr, face à la menace troyenne qui est grandissante. Et Agamemnon dit à son frère, « J'irai trouver moi le divin Nestor, je le prierai de se lever et de bien vouloir aller jusqu'à la troupe solide que forment nos hommes de garde afin de leur donner des ordres. » Et ici, je viens de citer la traduction de Paul Mazon, qui traduit donc l'expression phylakon hieron telos par la troupe solide que forment nos hommes de garde. Donc hieros, sous la plume de Mason, devient solide. Eugène Lasserre, donc autre traducteur de l'Iliade, reste plus près du texte. Je lis sa traduction, moi, donc toujours Agamemnon à Ménélas, moi j'irai vers le divin Nestor, le pousser à se lever pour aller, s'il le veut, voir la troupe sacrée des gardes et leur faire ses recommandations. Bon, sur le fond, ça ne change pas grand-chose, mais on voit bien qu'ici, Lasserre traduit le phylakon hieron telos par la troupe sacrée des gardes. Bon. Je vais bien entendu y revenir. On retrouve une expression similaire quant au chant 24. Hermès cherche à faire sortir sans alerter les gardes, justement, le roi Priam du camp achéen, où il est venu voir Achille et récupérer le corps de son fils Hector. Et donc on est au chant 24, vers 681-682, et le poète nous dit « En son cœur, il, c'est-à-dire Hermès, médite comment conduire le roi Priam loin des nefs en échappant aux yeux des gardes sacrés. » C'est la traduction de Mason, « Hierus, Pulaurus », donc textuellement, c'est ceux qui tiennent les portes, hein, les portes du rempart, en l'occurrence du camp achéen. Donc les hommes font ici office de rempart. Le contingent protège le camp à l'instar des murailles qui entourent une cité. L'analogie est d'autant plus intéressante qu'au fil des années du siège de Troie, le camp des Achéens est devenu une sorte de ville. Alors ce n'est évidemment pas une polis, hein. Dans cette interaction sur le champ de bataille de Troie, il y a une cité, c'est Troie. Hein. Avec les femmes, les enfants, dans le camp achéen, il n'y a que des militaires. Mais néanmoins, il y a quelque chose comme une ville qui s'est formée face à la cité de Troie, avec ses rues, ses quartiers, un fossé de protection que le vieux Nestor va devoir franchir une fois qu'il est allé soutenir les soldats en faction pour qu'ils ne se laissent pas gagner par le sommeil. C'est très important, donc il ne faut pas qu'ils dorment. Vous allez voir que ce n'est pas indifférent pour la suite. Dans son commentaire fleuve à l'œuvre d'Homère, l'érudit byzantin Eustate de Thessalonique ne s'y est pas trompé puisqu'il rapproche à plusieurs reprises ces différentes occurrences de l'adjectif que je viens de vous montrer, donc à la fois le chant 10 et le chant 24, donc ces différentes occurrences de hieros dans un même ensemble. Qu'il s'agisse donc de comprendre la qualité sacrée attribuée à une cité, hein, l'ensemble par lequel j'ai ouvert cette leçon, mais aussi aux remparts et au système de défense que sont les gardiens du camp achéen. Et je vais envisager avec vous les différents commentaires de Eustate parce que je pense qu'ils peuvent nous éclairer et nous permettre d'avancer dans la compréhension de ces expressions. Alors, Eustate, donc, dans son commentaire à l'Iliade, premier point, les cités sacrées. Bon. Donc, il part du vers où Thèbes est qualifiée de hiera, et il écrit ceci. La Thèbes évoquée n'est pas seule à être sacrée. Mais toute cité l'est également, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en tant qu'elle préserve, donc là il va donner une explication de cette qualité de hieros qui est attribuée à une polis. En tant qu'elle préserve ceux qui sont à l'intérieur, ce qui est précisément quelque chose de divin pour celui qui s'y trouve. D'où vient que dans les vers suivants, le poète désigne ceux qui de nuit gardent l'armée et veillent sur les autres comme... Et il cite donc un des passages que nous avons vus, « contingent sacré des gardiens ». Il dit aussi quelque part que les remparts sont sacrés, et dans l'Odyssée, il parle de la cité sacrée de Troie, et on a la citation du deuxième vers du chant 1 de l'Odyssée avec Hieron, Troyes, Ptoliétron. Voilà le premier passage. Il est plus explicite encore, Eustate, donc toujours, quand il en vient au Hierontelos Phulakon lui-même. Donc ici, en fait, dans le passage que je viens de lire, il évoquait, donc il partait de l'idée de la cité Hiera. Dans le passage que nous allons lire ensemble maintenant, il commente le Telos Hieron, hein, que nous avons vu dans l'autre passage. Je cite donc la traduction de Stat que j'ai faite. Il appelle le groupe des gardiens Hieron Telos, qui est un contingent divin, puisqu'il procure, restant éveillé, la sécurité à ceux qui dorment. Donc là, on est vraiment dans le contexte de l'Iliade. En effet, et là, il prend une position de surplomb dans son explication par rapport à l'Iliade elle-même, en effet, toute protection des êtres humains apparaît comme absolument sacrée. Ainsi dit-on également que les remparts des villes sont sacrés. Donc, vous avez les différents éléments à l'écran. Enfin, troisième et dernier passage de Stat que je vous soumets, glosant l'occurrence du chant 24 à propos d'Hermès qui médite la sortie de Priam du camp achéen, il écrit ceci. On sait également que, comme ailleurs, le contingent des gardiens est appelé Hieron Telos, donc il fait référence à l'autre passage et donc à son autre commentaire. Ainsi dit-il ici aussi, comment Hermès conduit le roi Priam loin des nefs en échappant aux yeux des gardiens sacrés. Il les appelle sacrés pour exprimer leur vigilance et leur attention à la communauté. Et là, le grec... Ah, oh, pardon, je n'ai pas changé de diapo. Le grec que je traduis par communauté... C'est donc leur attention à la communauté, en grec c'est « hyper tou koinou frontistikon ». Donc là on a cette notion de koinos qui sera fondamentale pour la suite, qui intervient dans le commentaire de Stat. Donc attention à la communauté, comme on dit également des cités qu'elles sont sacrées. Voilà, fin de citation donc du commentaire de Stat. Alors, au fil des années que j'ai passé à étudier la religion des anciens Grecs, j'ai appris à prendre Stat au sérieux, même si c'est fort indigeste. Bien entendu, sur une ligne du temps, Stat est plus proche de nous que d'Homère, hein, puisque Stat, c'est le XIIe siècle de notre ère. De nous que d'Homère, mais son commentaire est gros de 1000 ans de païdéia grecque qu'il maîtrisait de façon absolument étourdissante. Or, le point central de toutes les gloses que je viens d'énumérer est la protection de la communauté, qu'il s'agisse de la population d'une cité ou, par extension, de l'armée dans son camp retranché. C'est une même idée qui fonde le souhait d'Achille d'être avec Patrocle après le massacre des Troyens, le dernier des Achéens. Je reprends le passage du chant 16, que nous avons lu tout à l'heure, d'être le dernier des Achéens avec Patrocle, à délier les bandeaux sacrés de Troie. L'image ainsi convoquée est celle d'une femme dévoilée. Mais plutôt que l'image joyeuse du dévoilement de l'épousée pendant ses noces, c'est en fait celle du viol qu'Achille convoque dans sa fureur. Affirmer le caractère hiéros d'une cité ou d'une muraille, c'est exprimer un souhait d'inviolabilité et de protection dont Achille prend ici l'exact contre-pied. Et Eustate pressent encore au XIIe siècle de notre ère que l'interaction avec les dieux est intrinsèquement associée à cette protection, car l'adjectif théos, divin, vient gloser hieros à deux reprises. Alors tout à l'heure, la semaine dernière, je parlais de tautologie superficielle, hein, mais il n'empêche qu'effectivement, dans ce qui est hieros, il y a quelque chose de divin. Avant d'ajouter un autre cas à la liste des usages de hieros que je qualifierais brièvement et très approximativement de sociopolitique, mais politique au sens de rapport à la police et puis sociaux au sens du koinon, je voudrais m'attarder un moment sur cette idée de protection et d'inviolabilité. Tout d'abord, pour souligner évidemment que la guerre endémique entre cités atteste que l'inviolabilité de ces cités et des murailles est évidemment toute relative. Elle constitue néanmoins une attente qui est fondée sur la protection des dieux avec lesquels la cité crée une interaction rituelle. Alors évidemment, une polis hiera n'est pas hiera avec le même degré d'intensité qu'un hieron dûment circonscrit et officiellement établi. Il n'en reste pas moins que la capacité de l'une et l'autre de ces réalités spatiales à se voir ainsi qualifiées crée une intersection entre elles, par la protection que les dieux leur accordent et par la puissance qu'ils y manifestent. Et je renvoie à la leçon de la fois précédente. Alors, je ferai pour nous donner à penser, à réfléchir sur ces questions, je ferai une brève comparaison avec le lexique latin de la sacralité, parce que cette comparaison me semble pouvoir être éclairante par les questions qu'elle suscite et que je ne ferai évidemment qu'effleurer, puisque ce n'est pas mon sujet, mais cette ouverture d'une fenêtre vers Rome peut nous aider à réfléchir en retour sur notre propre vocabulaire. Je donne une brève bibliographie à cet égard. Et évidemment, je vous y renvoie pour d'éventuels approfondissements. Vous pouvez la télécharger. Donc, il y a évidemment l'ouvrage fondamental et le chapitre fondamental d'Émile Benveniste dans le vocabulaire des institutions indo-européennes, qui parle du sacré, aussi bien en Grèce qu'à Rome. Il y a un article de Robert Schilling, « Sacrum et profanum, essai d'interprétation », les articles fondamentaux de Jan Thomas sur la sanction et la violabilité, un très intéressant article de Sylvia Estienne sur la définition rituelle des espaces consacrés à Rome, et enfin un collectif publié récent, en 2017, un collectif dont je vous ai déjà parlé précédemment dans la leçon sur l'historiographie du sacré, dirigé par Thibault Lanfranchi autour de la notion de sacer. Donc voilà pour étayer un peu, donner une assise à cette brève incursion. Alors évidemment, l'avantage de Rome en comparaison avec la Grèce pour le chercheur en ces matières est la réflexion sur la catégorisation des notions à laquelle se sont livrés les juristes romains, ce qui n'est pas évidemment le cas du côté grec. Et je prends l'exemple du juriste Trébatius, un ami de Cicéron, cité par des fragments dans les Saturnales de Macrobe. L'interlocuteur du banquet que Macrobe met en scène souligne notamment combien les décrets pontificaux ont mis de soin à déterminer ce qui était sacrum, sanctum et religiosum, des notions habituellement traduites, mais avec tous les problèmes de déterminisme culturel que cela pose, par sacré, saint et religieux. Je prendrai juste une très brève citation de Macrobe qui nous dit ceci au livre 3, chapitre 3, paragraphe 2, et je n'ai pas encore pu consulter l'édition des Belles Lettres, mais ce livre vient de sortir aux Belles Lettres. Donc, sacrum est, donc est sacré, comme le rapporte Trébatius au livre 1 de son traité des obligations cultuelles, tout ce qui est considéré comme relevant des dieux. Ce qui donne en latin sacrum est ut Trébatius libro primo de religionibus referet, quicquid est quod deorum habetur. Et donc ici, le de religionibus. On voit déjà que la traduction par obligation cultuelle est évidemment beaucoup plus intéressante que par religion. Bon, mais ça, c'est un autre problème. Donc, est sacré tout ce qui est considéré comme relevant des dieux, ce qui traduit le quicquid est quod deorum habetur. Par cette définition, je reste un moment sur la définition, par cette définition, on pressent que sacer pourrait servir d'interprétatio romana au hieros grec. On trouve la référence aux dieux et à leurs propriétés. Alors évidemment, Les subtilités juridiques dont la culture romaine assortit ce premier constat sont très nombreuses et ce n'est pas mon propos d'entrer dans ces subtilités, je l'ai dit. Ce qui m'intéresse, c'est le rempart dont je suis partie. En latin, dans la catégorisation des juristes, bon, je n'ai pas repris le passage en latin ici, mais les murailles relèvent de ce qui est sanctum, à savoir de l'inviolabilité, de la protection contre les agressions. Donc, ce n'est pas sacer qui est utilisé, ou sacrum, ce qui est sacrum, mais c'est ce qui est sanctum. Or, quand Plutarque, dans la vie de Romulus, entend exprimer en grec cette notion romaine de sanctus, à propos du tracé du pomerium de Rome à la fondation de la cité, c'est l'adjectif hieros auquel il recourt. Alors évidemment, ici, nous sommes des siècles après le corpus poétique dans lequel je me promène avec vous depuis 3 semaines maintenant. Mais bon, le statut évidemment de ces Grecs sous autorité romaine, et voire même ces Grecs qui sont des citoyens romains et qui sont bilingues, comme Plutarque, comme Denis d'Halicarnasse, ce sont des textes qui nous donnent une nourriture intéressante pour réfléchir aux notions. À la comparaison entre le grec et le latin. Et donc, dans le chapitre 11 de sa vie de Romulus, voici ce qu'écrit Plutarque. Là où l'on veut, donc parlant donc de l'établissement des remparts en contexte romain, là où l'on veut intercaler une porte, dans les murailles donc, on retire le soc, on soulève la charrue et on laisse un intervalle. Aussi considère-t-on comme sacré le mur tout entier, à l'exception des portes. Et donc, en grec, ça donne « toteikos hieron ». Donc, c'est « hieros » qui est utilisé. Donc, on considère-t-on comme « hieros », le mur tout entier, à l'exception des portes. Si l'on tenait les portes pour sacrées, donc « hierai », les pulai, « hierai », on ne pourrait sans craindre la colère divine, y faire passer ni les choses nécessaires qui entrent dans la ville, ni les choses impures qu'on en rejette. Donc hieros ici, donc fin de citation, hieros est ici l'interprétatio graeca de sanctus, validant du même coup l'hypothèse que l'inviolabilité d'un rempart, qu'il soit matériel ou humain, est en cause quand l'adjectif affecte le terme. Je pense que même si Plutarque écrit des siècles après Homère, nous sommes dans ce registre-là. Toutefois, quand il revient sur cette problématique dans ses questions romaines, Plutarque va affiner son vocabulaire et il va conclure les multiples réponses à la question posée en écrivant, et c'est le deuxième passage que vous avez à l'écran, donc je suis dans les questions romaines cette fois, « Quand ils circonscrivent les remparts, écrit Plutarque, après avoir déterminé les espaces des portes, il soulève le soc et transporte la charrue afin que tout ce qui a été labouré soit sacré et inviolable. » Là, l'inviolabilité est évoquée en une juxtaposition des adjectifs hieros et asulos qui se répand à partir du milieu du IIIe siècle avant notre ère et qui relève de l'accord passé entre la cité ainsi qualifiée et d'autres cités qui reconnaissent ce statut. Je vous renvoie à ce sujet au livre désormais classique de Kent Rigsby qui s'intitule « Acilia, Territorial Inviolability in the Hellenistic World » publié à Berkeley en 1996. Toutefois, avant de poursuivre, donc on voit ici dans les passages de Plutarque que hieros, dans cette première occurrence dans la vie de Romulus, intègre en fait la double notion de sacer et de sanctus, mais que dans les questions romaines, il va appuyer en fait en utilisant une expression dont l'histoire rend compte. Et là, la distance entre la poésie et Plutarque se marque. C'est-à-dire que depuis le début de l'époque hellénistique, on a ce statut officielle, juridiquement reconnue, de hieros kai asulos, qui est en quelque sorte figée en une expression que Plutarque reprend à son compte. Toutefois, disais-je, la comparaison avec Rome a évidemment ses limites, elle donne à penser, mais elle a ses limites dans la mesure où Rome, l'urbs elle-même, n'est pas qualifiée de sacra ou de sancta avant le début du IIIe siècle de notre ère. Et c'est en rapport, et ça ce sont de bons romanistes qui le disent, en rapport avec l'affirmation toujours plus accentuée de la sacralité de la personne de l'empereur lui-même, qui donc la ville et l'empereur sont placés dans une sorte de jeu de miroir à cet égard. Et donc, on perçoit sans doute à ce point les limites de l'interprétatio entre hieros et sacer, même si on n'est pas nécessairement en mesure de les déterminer avec précision pour le moment. Alors, je vais refermer pour l'instant cette incursion dans les matériaux romains, et j'en reviens à la sacralité des cités, telle que les formules homériques les dessinent, en étroite relation avec la dimension de protection des remparts et de la troupe. La cité, en tant que lieu de vie par excellence d'une communauté humaine, le koinon dont parlait Eustate, la cité donc, et dans la poésie homérique, le camp achéen qui lui est en quelque sorte assimilé par le biais du télos protecteur de ses jeunes gardiens, donc la cité, disais-je, est le lieu de protection de l'existence et de l'épanouissement du groupe, de la communauté, du koinon, auquel les dieux sont associés par leur présence au sein de la cité et par l'attention qu'ils prêtent à l'hommage que les collectivités leur rendent, tout particulièrement en ce lieu. Je vous renvoie à l'Odyssée et à Hermès, qui n'étaient pas très heureux d'aller dans la grotte de Calypso. Au sein d'une cité susceptible d'être qualifiée elle-même de hiera, certains espaces sont spécifiquement des hiera. On l'a vu avec les sanctuaires ainsi dénommés. Mais d'autres composantes de l'espace civique le sont aussi, notamment, et je reviens dans l'Iliade, au chant 18, en un passage extrêmement important pour le problème qui m'occupe aujourd'hui. En effet, au chant 18, on trouve la première ekphrasis de la littérature occidentale, donc cette description d'un objet. Et il s'agit en l'occurrence de la description éblouissante du bouclier que le dieu Héphaïstos forge pour Achille, dont les armes ont été prises par les Troyens sur le corps de Patrocle, qui était parti au combat, je vous l'ai dit, avec la panoplie de son ami. Patrocle donc tombé sous les coups d'Hector. L'objet fabuleux, le bouclier que décrit donc le poète au chant 18 de l'Iliade, cet objet fabuleux représente les astres et la terre des hommes entourés du fleuve Océan, l'Océanos qui, uni à Tétis, produisait les 3000 océanines, le Génos Hieron des jeunes filles. Et sur ce bouclier, deux cités sont figurées, l'une en paix, l'autre en guerre. Mais dans la ville en paix, où résonnent les chants de mariage et où les femmes sont associées à la joie de la fête, un conflit s'est élevé entre deux hommes sur la place publique, en l'occurrence sur l'Agora. Je cite le passage avec vous. Donc c'est la description de ce formidable bouclier. La foule sur l'Agora est rassemblée. Un conflit, un eikos, nous dit le grec, s'est levé. Deux hommes se querellent pour le prix du sang d'un homme mort. L'un affirme avoir tout donné et le déclare au peuple, le démos. L'autre nie avoir rien reçu. Tous deux recourent à un témoin pour en finir. La foule crie, partie pour l'un, partie pour l'autre, soutenant l'un ou l'autre. Des héros contiennent la foule. Les anciens sont assis sur des pierres polies en un cercle hieros, sacré. Ils ont dans les mains les sceptres des héros dont la voix ébranle l'air. Ensuite, y prenant appui, ils émettent leur sentence à tour de rôle. Au milieu sont déposés deux talents d'or pour celui d'entre eux qui prononcera la sentence la plus droite, dikaine itunata. Fin de citation. Ce passage est crucial pour quiconque tente de comprendre les modalités judiciaires en vigueur dans la société archaïque et l'autorité qui les sous-tend. Nous sommes donc bien dans notre thème, et ce n'est pas la dernière fois que vous verrez ce passage. Du cercle des anciens doit émaner la sentence la plus droite pour mettre fin à la querelle qui porte sur le prix du sang pour un homme décédé manifestement de façon violente. Au départ, si l'on comprend l'arrière-plan de ce passage, au départ, l'affaire était donc censée se résoudre à titre privé entre les groupes concernés. Et on les voit apparaître en sous-texte, on les voit apparaître dans ce passage. Ce sont les supporters de l'un et l'autre des protagonistes de l'affaire. Mais le système de résolution des conflits est ici bloqué sur un neikos, on le voit dans le texte, le conflit, le neikos, insoluble. Il y a donc une dissension impossible à lever et donc potentiellement dangereuse. Dans le monde dépeint par Héphaïstos sur le bouclier d'Achille, un meurtre peut toujours déchaîner la guerre si les compensations financières décidées en lieu et place d'une vengeance ne sont pas payées ou si une querelle intervient sur le paiement précisément. Le détail de la procédure évoquée ici nous échappe, le détail, et beaucoup d'encre a déjà coulé pour qu'on rende compte de ces quelques vers. Alors, à ce stade de la présente réflexion, je m'en tiendrai, comme vous vous en doutez, à la qualification de hieros qui caractérise le cercle formé par les anciens assis sur leurs pierres polies par les ans. Chacun à son tour, l'un d'entre eux s'appuie sur un sceptre pour prononcer une diké, une sentence, qui soit la plus droite possible. Diken itun tata, nous dit le vers 503 du passage. Au terme de ce qui est avant tout une joute oratoire dont sortira un vainqueur, puisque vous remarquerez qu'il y a deux talents, ce qui n'est pas mal, qui sont déposés au centre du groupe, au milieu du groupe, le conflit sera réglé, éloignant du même coup le risque que le neikos faisait courir à la communauté. Pour comprendre en quoi ce cercle que forment les anciens peut être qualifié de hieros, une incursion dans la théogonie d'Hésiode s'impose, et là encore, c'est un passage sur lequel je reviendrai. Les vers qui m'intéressent se situent dans le prologue de l'œuvre, quand Hésiode évoque l'inspiration des muses. On a vu la semaine dernière la couche sacrée de Mnémosyne sur laquelle Zeus venait pour engendrer les neuf muses, donc on est dans le même contexte. Hésiode donc évoque l'inspiration des muses qui saisit non seulement les poètes mais aussi les rois. Ce sont donc ces derniers qui vont nous retenir. Je lis la traduction avec vous, donc ce sont les vers 81 à 93, c'est un peu long mais c'est important. Celui que tiennent en honneur les filles du grand Zeus, sur qui dès sa naissance se pose le regard parmi les rois nourrissons de Zeus, celui-là, elle lui verse sur la langue une rosée suave, celui-là, les mots lui coulent de la bouche, propre à apaiser, et ses gens ont tous les yeux sur lui, quand il tranche en matière d'arrêt coutumier par l'effet de sa droite justice. Et l'expression qui est utilisé par le poète, convoque à nouveau la notion de diké, plus les thémistos, la notion de diké qui est à nouveau qualifiée par Itus, qui cette fois, évidemment, n'est pas au superlatif, puisqu'il ne s'agit plus d'une joute oratoire comme telle, puisque le roi est seul à trancher. Celui-là, sans le moindre faux pas, quand il parle sur la place, et donc on a à nouveau l'agora, donc on est dans le même contexte qu'au chant 18 de l'Iliade, a vite fait de mettre un terme aux querelles, même grandes. Il sait s'y prendre, car s'il y a des rois pleins de sagesse, c'est bien afin que pour les gens à qui l'on cherche à nuire en place publique, ils fassent à terme se retourner ses actes contre leurs auteurs, et cela sans peine, en se gagnant les cœurs par des mots sans rudesse. Et quand il s'avance à travers la foule assemblée, nous continue Hésiode, c'est comme un dieu qu'on cherche à se le concilier par un respect bien propre à apaiser, et on le voit de loin dans les réunions publiques. Tel est le don sacrée, hiere dosis, nous dit le grec, que les muses dispensent aux humains, donc aussi bien les poètes que les rois. Donc c'est une hiere dosis. Je reviendrai plus tard sur le registre de la Thémis, que permet d'entrevoir ici la référence au Thémistos du vers 85, parmi lesquels donc, tranchent les rois par leur sentence droite. Mais la référence à de telles sentences m'arrêtera dans un premier temps, car leur évocation sur l'arrière-plan d'un eikos est le même que dans la description du bouclier d'Achille. Donc, comme je le disais, hormis l'usage du superlatif de itus qu'on trouve comme tel dans un passage et non dans l'autre. De part et d'autre, donc, nous avons affaire à un dit de justice, droit, énoncé publiquement, et le parallèle hésiodique permet d'attribuer aux anciens de la cité, du bouclier, la mémoire des Thémistos, qu'Annie Bonafé, dont j'ai repris largement la traduction ici, traduit judicieusement par arrêt coutumier. On verra que c'est. On approfondira ce point plus tard. La joute de ces dits de justice, les dikai évoqués par Homère, est parallèle aux paroles du basileus, du roi, dont l'inspiration est une hiere dosis, un cadeau sacré des muses aux hommes. La parole la plus droite, on voit d'où vient la notion de droit, la parole la plus droite et donc la plus juste, qui finit par l'emporter sur l'agora de la communauté aux prises avec le neikos dans l'Iliade, est comparable au don des muses qui honore le basileus sur l'agora hésiodique. Et si l'on étend cette comparaison, le cercle des anciens pourrait être hieros en ce qu'il est le lieu de ce type d'exercice, enfin ce type de performance plutôt, associé aux déesses. Il est le lieu aussi, ce cercle des anciens dans l'Iliade, même si ce n'est pas exprimé de la même manière, d'une hiere dosis, comme le dit Hésiode, à savoir le don de l'inspiration divine. Mais c'est une approche qui me semble pertinente, mais ce n'est peut-être pas le dernier mot que l'on puisse en dire, car c'est bien le cercle que forment les sièges et les anciens qui les occupent qui est ainsi qualifié. Il y a un espace qui n'est pas banal. J'ai évoqué, en ouvrant cette leçon, la sacralité des cités et des remparts homériques. Préservation, inviolabilité, souci de protection de la communauté qui interagit avec ses dieux sont autant d'éléments qui ont nourri la réflexion que nous avons menée jusqu'ici sur l'attribution de la qualité de hieros aux cités, à leurs murailles et, on l'a vu, aux gardiens des remparts, en l'occurrence du camp achéen. Or, le cercle des anciens chez Homère, comme la parole inspirée du roi chez Hésiode, ont pour mission de neutraliser le neikos, le conflit. Ils agissent vis-à-vis des troubles intérieurs, comme la muraille d'une cité le fait, contre les menaces extérieures. La comparaison enrichit, me semble-t-il, la compréhension de ces différents emplois de hieros, où se trouve exprimée la survie même d'une communauté protégée par ses dieux. Dès lors, me semble-t-il, c'est en tout cas l'hypothèse que je vous soumets, le cercle sacré des anciens pourrait bien être parallèle dans la gestion des affaires intérieures de la communauté au telos hieros des gardiens ou à la sacralité des remparts dans leur vertu de protection contre l'extérieur, l'une et l'autre divinement accompagnées. Donc vous voyez que là encore, je pense qu'on peut aller plus loin que la simple référence à une sacralité, une consécration, même à un don sacré. Il y a là un faisceau d'éléments qui associe puissamment la notion de hieros à la question de la protection, de la survie de la communauté. Alors, j'en arrive maintenant au deuxième aspect de la leçon d'aujourd'hui. Dans le titre de cette leçon, et on poursuit ainsi l'enquête sur hieros dans la poésie archaïque, dans le titre de la leçon que je reprojette à l'écran, j'ai associé la cité et le sacrifice. Le passage déjà évoqué où Zeus parle des sacrifices offerts à Troie par Priam et son peuple atteste l'étroitesse des relations entre la vie en cité et ce que j'appellerais, pour faire bref, la culture sacrificielle. Si la qualification de hieros attribuée à une cité nécessitait que l'on s'y arrête un peu longuement, l'omniprésence du terme hiera et d'autres mots formés sur lui en contexte sacrificiel ne nécessite pas de longs développements. Ce sont des choses bien connues, mais seulement quelques rappels. Alors évidemment, dans ce passage, on n'a justement pas la notion de hieros, mais on va voir qu'elle est diffuse dès qu'on parle de sacrifice. Et pour cette enquête, l'ouvrage de Jean Casabona reste un passage obligé, donc recherche sur le vocabulaire des sacrifices en grec des origines à la fin de l'époque classique. C'est sa thèse, en fait, qui a été publiée en 1966. Alors, partons du vocabulaire, puisque c'est le fil que nous tirons. Et donc, je vous mets sous les yeux toute une série de termes qui intègrent la notion de hieros. Et c'est... Donc, on a hieros, hiereia, prêtre et prêtresse, hiereion, l'animal sacrificiel, hiereo, la forme verbale, et les hiera, dont on a plusieurs déclinaisons. Donc, nous allons voir rapidement comment tout cela s'agence et ce que l'on peut en déduire dans le corpus poétique. Alors, selon Casabona, que je suis volontiers en cette matière, c'est autour du pluriel hiera que s'est développé ce groupe de mots. Et hieros, puis hiereia, donc le prêtre, la prêtresse, donc le prêtre, hieros, c'est celui qui fait les hiera, comme le grammateus fait des grammata. On a là les noms en eus, comme ceux-là sont à date ancienne des noms de métier, de position sociale, qu'il suffise de penser à Basileus, dont on vient de parler, le chef, le roi, que l'on a vu en action sur l'agora. Alors, pour le grammateus, ce qu'il produit, le caractère concret de ce qu'il produit, les grammata, les lettres, les textes, est évident. Pour le basileus, l'abstraction est davantage de mise. Pour le hieros, les hiera auxquels son nom est associé peuvent être les parts concrètes que dégage l'opération sacrificielle, puisque c'est un premier sens de hiera au pluriel, les parts concrètes issues de la découpe de l'animal, comme vous le voyez à l'écran, et s'étendre par synecdoque à toute l'opération en tant que processus rituel. On a des offrandes au sens large, où on garde l'aspect concret, ou une acception plus abstraite, qui évoquent les rites eux-mêmes. Le hieraion, donc deuxième occurrence à l'écran, est la forme substantivée d'un adjectif hieraios, qui est tiré de hieros, comme basileios, royal, est tiré de basileus. Mais le hieraion, dès ses premiers emplois dans l'épopée, qui ne sont pas très nombreux, est immédiatement spécialisé et désigne l'animal sacrificiel. L'animal sacrificiel, et cet emploi aura une remarquable postérité, comme hiereuse d'ailleurs, notamment dans les normes rituelles épigraphiques. Le verbe, quant à lui, aura une postérité moins importante. Il est formé donc sur le substantif hiereuse et désigne donc l'action accomplie par le hiereuse. Or, le verbe commande, alors je n'ai pas repris d'exemple ici, mais le verbe commande l'accusatif du nom de l'animal sacrificiel. C'est donc hiereo, hierein, c'est le traitement de l'animal pendant le processus sacrificiel qui est au cœur donc du nom du desservant. Le verbe donc est essentiellement attesté dans la poésie archaïque et il exprime l'idée de sacrifier, mais dans une acception bien précise. Là, évidemment, il faut me croire sur parole, je ne vais pas déployer tous les passages. Il s'agit vraiment de la phase d'immolation, et ça, Casabona l'a très très bien montré. La phase d'immolation, donc l'idée de sacrifier au sens d'immoler, comme Tuaine le fera par la suite, mais ce que Tuaine par la suite désigne est plus large que la seule immolation, et recouvrira aussi cette autre expression poétique du sacrifice, poétique, on trouvera très peu ça en prose, qu'est la combinaison donc, de Yéra en tant que, alors on va voir, part concrète ou célébration, et les verbes redzein ou erdein qui sont formés sur le même thème et qui sont interchangeables en l'occurrence. Avant d'envisager ce cas précis, je veux souligner, parce que je ne suis pas sûre que je vais avoir le temps d'y revenir, Hieros, donc je vous ai dit, formé sur Hiera, le prêtre en Grèce n'est pas une figure Hieros comme telle, au sens où il serait consacré et voué à un mode de vie particulier. Hieros, les Hiera qui sont derrière son nom, c'est vraiment ce qu'il produit, c'est-à-dire les pas sacrificiels. C'est important de le rappeler. Bon, j'en arrive à mes expressions, aux expressions de l'acte sacrificiel. Donc, on voit ici trois passages de l'Iliade, au chant 1, au chant 9 et au chant 11, où sont combinés les notions, donc les termes Hiera et Redzein ou Erdein. Donc, pour apaiser le préservateur après avoir accompli les Hiera, on va traduire comme ça en première instance. Autre passage, demain, après avoir accompli les Hiera pour Zeus et tous les dieux. Troisième exemple, autour de la ville, nous accomplissions les Hiera pour les dieux. Alors, c'est évidemment la cérémonie qui est en ligne de mire quand on traduit le verbe par accomplir. En traduisant par offrir, ce qui ne serait pas faux, les Hiera deviennent concrets. Mais c'est finalement, quand on doit traduire, hein, puisque c'est quand même ça l'objectif, c'est assurément le verbe sacrifier qui englobe le mieux l'expression, l'idée véhiculée par l'expression, qui peut également se ramener au verbe seul. Je vais vous montrer des passages où le verbe est seul, mais vous voyez ici que quand on transforme les trois passages dont je viens de lire la traduction, ça devient pour apaiser le préservateur après avoir sacrifié, demain après avoir sacrifié à Zeus et à tous les dieux, autour de la ville nous sacrifions aux dieux. Donc en français, ça fonctionne très très bien puisque sacrifier peut commander un objet ou non. Alors je vous disais, ces verbes poétiques que sont redzein et erdein peuvent aussi apparaître seuls, sans hiera ou sans un autre complément d'objet. Ils sacrifiaient aux dieux toujours vivants, l'un à un dieu, l'autre à un autre. Vous avez allos dallo eredze theon ae genetaon. Donc là, redzein est tout seul, et c'est ça que ça veut dire, évidemment, c'est sacrifié. Autre passage au chant 8, là où les Achéens avaient coutume de sacrifier à Zeus panomphaios, et c'est le verbe redzein tout seul. Mais il peut aussi être assorti du nom d'un animal. Et donc là encore, la notion de sacrifier fonctionne, enfin le verbe sacrifier fonctionne très bien. Donc c'est une prière. Donc je te sacrifierai une génisse d'un an au large front indompté qu'aucun homme n'a encore mise sous le joug. Rexo boon. Donc là on a l'animal qui apparaît. Un passage plus complexe de l'Iliade au chant 23, Iris vient trouver Borée et Zéphyr, qu'Achille supplie d'attiser le bûcher funéraire de Patrocle. Non, Patrocle est mort, Achille organise ses funérailles, le bûcher doit flamber, et donc il supplie les vents d'intervenir pour que le bûcher s'embrase. Et Iris, la messagère, vient trouver les vents en question. Et Borée et Zéphyr veulent la faire asseoir, et voilà ce qu'elle répond. « Ce n'est pas le moment de m'asseoir. Je repars et m'en vais au bord de l'océan dans le pays des Éthiopiens. Ils sont en train de sacrifier des hécatombes, donc des dizaines de bovins, et on voit l'expression « redzousi hécatombas », pour les immortels, et je veux moi aussi avoir ma part de Hiera. Mais Achille, dit-elle, supplie Borée et le bruyant Zéphyr, il vous promet de beaux Hiera. Donc vous voyez qu'on a là une récurrence d'expression dans ce passage. Au vers 206, C'est là, donc avec l'expression Rezus et Catombas, c'est la cérémonie dans sa totalité qui est évoquée, le sacrifice de multiples bovins offerts aux dieux par les Éthiopiens. Au vers suivant, Iris va exprimer son désir d'être présente en une formule que l'on pourrait traduire de deux manières. Prendre part au hiera, et là je privilégie l'aspect, enfin le sens global de rituel ou de cérémonie, ou avoir ma part de hiera, considérant alors plutôt les parts qui sont produites par un sacrifice. Et c'est ce que j'ai choisi ici, avoir ma part de hiera. C'est vraiment la timée des dieux qui s'exprime, enfin de la déesse en l'occurrence. Et en effet, quand on regarde un passage du chant 11, on voit très clairement que dans ce cas-là, hiera désigne les parts. On voit le vieux meneur de char Pélée qui brûlait de gras cuisseaux de bœuf pour Zeus tonnant dans l'enclos de la cour. Il tenait une coupe d'or avec laquelle il répandait des libations de vin au sombre feu sur les parts sacrées flambants, sur les hiéras flambants. Quant au hiéra Kala, promis par Achille à Borée et Zéphyr, c'était la troisième occurrence dans le passage que nous avons vu, et que je remets sous les yeux, donc c'est le passage du chant 23, il renvoie à l'expression « hiéra Kala Redzain » que l'on croise par exemple au chant 11, en un passage que nous avons déjà vu passer il y a 15 jours, où on voyait donc Nestor qui racontait une campagne ancienne, et c'est à ce propos, et on l'a revu encore la fois dernière, avec Hieron Rhoon, donc le cours sacré de l'Alphée, mais il y a donc cette évocation d'un sacrifice. Enta dir rexante supermene hierakala, donc nous avons sacrifié, alors là je traduirais sous de beaux auspices, sous de beaux auspices à Zeus très puissant, etc. Donc, l'expression Redzein Hiera Kala n'est pas fondamentalement différente du simple Hiera Redzein. L'adjectif ajoute toutefois une dimension que nous aurions tendance à qualifier d'esthétique, puisqu'il s'agit de la beauté des rites, mais en Grèce, la beauté, c'est toujours plus que ça. Kalos induit ici le fait que les parts sacrificielles remplissent en fait les conditions nécessaires pour plaire aux dieux et susciter en retour les bienfaits attendus de leur part. Et donc on voit là dans ce passage, par l'ajout de Kala, la définition même de ce qui est Hieron, comme lieu d'interaction entre les dieux et les hommes. Et chez Hérodote, parce que c'est un verbe que l'on ne trouve pas à la période archaïque, on verra arriver le verbe kaliereo, qui est une sorte de concentré verbal de Redzein Hiera Kala. Tant donc l'expression Hiera Kala que le verbe kaliereïn font droit à l'issue attendue de l'opération. Et donc on voit bien que cette beauté-là fait référence à une dynamique qui crée les conditions de possibilité d'une interaction entre le groupe sacrifiant et le ou la divinité destinataire. Alors, résumons et concluons cette leçon sur la cité, quand elle est dite hiera, et sur le sacrifice véritablement infusé par le champ sémantique de hieros au départ de la forme du neutre pluriel. La cité, symboliquement sainte de ses murailles, est le lieu de protection et d'épanouissement du koinon, de la communauté dont les dieux sont partie prenante. La qualité de hiera que la poésie archaïque applique à toute polis, mettons l'accent, indistinctement, en fait le lieu privilégié du déploiement de l'activité humaine sous le regard des dieux, dieux qui sont en attente de leur timée, de l'hommage qui leur est dû, puisque la divinité même est affirmée par la timée qui est allouée. Donc c'est un rapport extrêmement étroit. Que ce soit pour sa subsistance, pour la protection contre le dissensus interne ou la menace extérieure, la vitalité, je retrouve cette notion, la vitalité du koinon spécifique qu'est une cité, s'inscrit dans une interaction continue avec les puissances divines qui habitent le monde et fréquentent les hommes. C'est à ce titre qu'une cité reçoit la qualité de Hiera. Elle est le lieu par excellence de la vie en société, et dans la vision poétique de la polis, une société véritablement humaine reconnaît les dieux qui agissent dans le monde, aime les cités et les protège. Elle est Hiera en tant qu'elle se situe sur une voie, et je reprends à nouveau l'expression de Rudart, qui mène des hommes aux dieux, des dieux aux hommes, quand il définissait l'adjectif. Donc voilà pour la première partie du titre de la leçon d'aujourd'hui. Quant au sacrifice producteur de Hiera, de part sacrée, part que j'aurais envie de qualifier là encore de divinement puissante au sens que j'évoquais la semaine dernière. Le sacrifice, disais-je, il est créateur d'interactions en reconnaissant la timée des destinataires divins, mais en exprimant également les attentes des hommes et la réponse des dieux. Ritualiser la mise à mort d'un animal domestique permet de créer les conditions d'un échange entre sphère humaine et sphère suprahumaine que la crise prométhéenne mise en scène par Hésiode, je vous ai parlé de cela les années précédentes, que la crise prométhéenne a séparé. Toutefois, dans le monde de l'immanence qui est celui des Grecs, dans ce monde de l'immanence, la séparation n'est pas absolue. Cité et sacrifice ouvrent la possibilité d'une collaboration entre les vivants mortels et les vivants immortels que sont les dieux. Et c'est cela qu'exprime la qualité de Hieros, poétiquement déclinée par l'épopée. La vitalité partagée, car dans ce qui est Hieros, quelque chose de la puissance divine se manifeste. Alors bien sûr, et on le verra encore les semaines qui viennent, l'intensité de cette puissance n'est pas la même dans toutes les occurrences du terme. La variabilité des contextes permet de parler de deux pôles, de haute et de basse intensité, entre lesquels se déploie un large éventail de possibilités. Je dirais que du côté de la basse intensité se trouvent les modestes anathémata qui entrent dans la propriété du dieu auquel ils sont offerts dans son sanctuaire. Ces objets, je l'ai dit, sont la trace résiduelle d'une interaction offerte à la vue de la communauté et sous le regard du dieu, puisque, et l'intensité monte alors d'un cran, le hieron en tant que sanctuaire est par excellence la propriété du dieu, là où un groupe a choisi d'en capter la puissance à son profit, que cette captation se fonde d'ailleurs sur une manifestation clairement perçue ou sur un choix d'opportunité réfléchi. On a vu les deux possibilités quand il s'agit d'un sanctuaire. Même au sein de hieron, l'intensité peut varier selon les espaces concernés. L'autel où prend place le sacrifice, voire la statue de la divinité officiellement installée au sein du sanctuaire, donc l'autel, la statue, peut revêtir une intensité plus forte, car des rituels en ont fait des lieux privilégiés de la manifestation divine, au moins potentiellement. À cet égard, l'opération sacrificielle elle-même a une intensité plus ou moins grande selon le type de rituel auquel on a affaire. Mais le sacrifice qui implique la constitution de parts sacrées culmine dans la manipulation de ces parts, les hiera, qui forment une sorte d'interface active. La dynamique que j'évoquais tout à l'heure à propos des hiera kala. D'une intensité qui n'est pas celle des hiera sacrificiels, tout en accueillant quelque chose de la puissance de la déesse, est le blé de Déméter, ou l'air de battage, où se détache le grain de son enveloppe, mais aussi le cours impétueux des rivières. Quant aux exemples dont je suis partie aujourd'hui, à savoir les cités sacrées, les remparts sacrés, les gardiens sacrés de ces mêmes remparts, le cercle sacré aussi formé par les anciens qui doivent trancher une affaire de meurtre, la qualité d'hieros qui se rattache à eux dans les vers d'Homère se comprend, j'espère, de façon plus complète et j'espère surtout vous en avoir convaincu au terme de ce parcours. Merci pour votre attention.